Les cours du Collège de France, Xavier Leroy, chaire Sciences du logiciel.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette dernière séance de cours sur le thème du calcul sécurisé. Et donc aujourd'hui, j'ai voulu aborder quelques sujets un peu complémentaires des grands thèmes qu'on a déjà vus dans les six premiers cours, à savoir le chiffrement homomorphe, le calcul multipartite et puis l'épreuve zero knowledge. Donc quelques sujets sans doute moins centraux et moins développés, mais que j'ai trouvé intéressants. Et on va commencer par parler de mémoire. Et de mémoire à accès direct. Jusqu'ici, on s'est mis, avec le chiffrement homomorphe, avec le calcul multipartite, on s'est mis dans un modèle de calcul où tous les calculs sont représentés par des circuits combinatoires. Ça peut être des circuits booléens, ça peut être des circuits comme en électronique digitale, ça peut être des circuits arithmétiques, où on a des nombres qui entre 0 et Q, par exemple, Q-1 qui sont sur les fils, on n'a rien d'autre. Alors, on n'a pas de branchement, on n'a pas de mémoire. Alors, ce n'est pas très grave, au moins en principe, puisqu'il y a ce célèbre théorème qui dit que toute machine de Turing de taille n, qui termine en temps polynomial de n, peut être réalisée par un circuit de taille polynomiale en n. Et donc, quelque part, le circuit va encoder toute la partie de bande que la machine utilise, la mémoire que la machine utilise. Après, il faut voir un peu quels sont les degrés et les constantes de ce polynôme de n. Et il est indéniable que beaucoup de calculs s'expriment plus facilement et vont s'exécuter plus rapidement s'ils ont accès à une mémoire à accès direct. Donc, Random Access Memory. Alors déjà, rien qu'une mémoire en lecture seule, une ROM, ça peut être utile pour avoir des grandes tables de constantes, pour consulter une base de données. Si on a une RAM, une mémoire en lecture-écriture, on peut aussi s'en servir pour stocker de nombreux résultats intermédiaires. Alors bien sûr, on peut réaliser l'accès direct. Donc l'index, l'adresse mémoire, c'est un entier entre 0 et n-1. Avec des circuits. Pour un circuit booléen, vous allez avoir n multiplexeurs, organisés en arbres binaires par exemple, qui vont distinguer suivant les bits de x. Pour un circuit arithmétique, vous pouvez toujours écrire un polynôme d'interpolation, à la manière de Lagrange, d'accord ? Les AI ici, c'est les différentes valeurs de la mémoire, et puis les lambda i, ben, c'est les polynômes qui font que p de i vaut a de i. Dans les deux cas, on peut dire que l'accès il touche au n entrées de la mémoire, d'accord. Et si vous faites une évaluation séquentielle de votre circuit ou de votre polynôme, elle va être en temps O de n. Alors il y a un folklore qui dit qu'on ne peut pas faire mieux. Parce que si vous faites un accès privé à une base de données, un accès qui ne doit rien révéler au gestionnaire de base de données de la requête, cet accès, il est forcé d'accéder à toutes les entrées de la base, parce que sinon, il va révéler des informations sur l'accès. Le gestionnaire de base de données, en voyant les cases de la base qui n'ont pas été accédées, va apprendre quelque chose. Et on va voir que ce n'est pas tout à fait vrai. Il y a quand même des moyens d'avoir des accès sécurisés, privés, des mémoires en accès direct. Alors le premier moyen qu'on va regarder, c'est ce qui s'appelle la RAM inconsciente, Oblivious RAM, ORAM. Donc c'est un modèle, c'est un modèle qui est relativement réaliste qu'on trouve dans certains processeurs ou ordinateurs d'aujourd'hui qui ont des enclaves sécurisées. Donc une enclave sécurisée, c'est un processeur spécial sur le côté ou un mode d'exécution spécial de votre processeur Intel ou ARM. Alors il est sécurisé au sens où en particulier toutes les informations qui sortent et qui rentrent du CPU sur le bus sont chiffrées. Mais ça communique avec une RAM ordinaire le modèle d'attaque, c'est que l'attaquant en fait peut espionner ce qui se passe sur le bus, peut écouter ce qui se passe sur le bus, donc il peut voir les adresses mémoire accédées, il peut voir les contenus des cases mémoire lues ou écrites. Et donc on veut que ces accès qui passent sur le bus ne révèlent rien sur le calcul qui est fait dans l'enclave. Alors ça veut dire trois choses. Premièrement, que les données stockées en RAM doivent être chiffrées. Deuxièmement, que les adresses auxquelles on accède en RAM doivent être brouillées, elles doivent pas correspondre facilement aux adresses logiques. Si le CPU est en train de parcourir un tableau séquentiellement, il faut pas que les adresses mémoire soient séquentielles. D'accord ? Sinon, l'attaquant, il apprend quelque chose, que le CPU est en train de faire un accès séquentiel. Et alors, ça va un cran plus loin. Il faut même que deux accès consécutifs, ou enfin, l'un après l'autre dans le temps, à la même adresse logique, ne doivent a priori pas accéder à la même adresse physique. Sinon, l'attaquant, il est capable de distinguer le cas où j'accède deux fois de suite à la même case et le cas où j'accède à deux cases différentes. Alors, c'est ce troisième point qui est un petit peu délicat, mais on va voir qu'on peut y arriver. Et donc, la première construction qui réalise tout ça a été proposée par Goldreich et Ostrovsky en 96. Et alors, ça s'appelle la square root ORAM, donc la ORAM à racine carrée, et vous allez comprendre pourquoi racine carrée. Mais donc, l'idée, elle est assez simple. Donc, pour réaliser une ORAM de taille grand N, vous allez avoir besoin d'une RAM que l'attaquant peut espionner, mais pas modifier, qui va être un peu plus grande. On va avoir besoin de grand N cases pour stocker des vraies données et de petites N cases pour stocker des leurres, des choses qui vont tromper l'attaquant. Et puis, on va se donner un cache de taille petite N aussi. Alors, dans l'explication, je vais supposer qu'il est à l'intérieur du CPU, donc il n'a pas besoin d'être chiffré, etc. En fait, dans l'article d'origine, le cache en question se trouve aussi en RAM, et ça ne pose pas de difficultés majeures. Mais bon, c'est un peu plus facile à expliquer si on imagine le cache, un petit cache dans le CPU, et puis c'est relativement réaliste. Et alors, pour accéder à cette RAM, excusez-moi, on va utiliser une permutation aléatoire des adresses. Donc le client connaît, l'enclave sécurisée connaît une permutation pi qui permute les adresses de la RAM. Et donc l'idée, c'est qu'à l'adresse logique i, l'adresse logique i correspond à la case pi de i de la RAM, pour i variant de 0 à n-1, ça va contenir un chiffré de la valeur VI qu'on veut stocker dans cette RAM et aussi de l'adresse logique I. Mais cette paire-là est chiffrée, d'accord ? Donc quand elle traverse le bus, elle ne révèle pas d'informations. Et il nous reste donc petites n cases en mémoire, mais qui ne sont pas des adresses consécutives, hein, qui sont des adresses permutées, qui vont servir de leur. Alors, comment on fait pour lire une entrée ? Bon, déjà, je vais vous faire le cas où la mémoire est en lecture seule. C'est un peu plus facile. Donc, on veut lire, le CPU sécurisé, l'enclave sécurisée veut lire à l'adresse logique I. Alors, si cette adresse n'est pas dans son cache, c'est la première fois qu'elle y accède, elle va aller lire à l'adresse pi de I dans la RAM externe, elle va obtenir un chiffré E, qu'on va déchiffrer, obtenir normalement la même adresse logique i et puis une valeur x, qui est le contenu de la case mémoire. On va ajouter dans le cache une entrée qui dit qu'à l'adresse i, il y a la valeur x, et puis on va renvoyer x comme résultat de la lecture. Si l'adresse i est dans le cache, avec la valeur x, on pourrait dire que c'est facile, il n'y a qu'à continuer avec la valeur x. Mais non, parce que là, en ne faisant pas d'accès à la RAM, on a révélé quelque chose à l'espion. Donc on va faire un accès à la RAM à une adresse leurre, à une adresse pi de n plus k, où k est un compteur de faux accès mémoire. D'accord ? Donc on va lire cette adresse, donc l'attaquant y voit une lecture. Et dans les deux cas, on va incrémenter le compteur K de leurre, d'adresse leurre, pour être sûr qu'on ne va jamais l'utiliser deux fois. Et alors bien sûr, au bout de petit n accès, de petit n écriture, on n'a plus de leurre. Et donc, qu'est-ce qu'on fait ? Ben, on va tirer et appliquer une nouvelle permutation pi'. On va donc repermuter toute la mémoire principale et on sera bon pour continuer à nouveau avec petit n accès ensuite. Bon, donc ça c'est l'idée de base. Et maintenant, la question c'est comment on fait pour repermuter la mémoire, ou même comment on fait pour la permuter initialement au début de l'exécution. Donc rappelez-vous, la RAM, elle contient des couples chiffrés, donc des chiffrés de I et de valeurs associées VI. Et en fait, on veut les ordonner sur la permutation pi. On veut que le chiffré de I et de VI se trouve en position pi de I dans la RAM. Et ça, en fait, ça revient essentiellement à trier la RAM par pi de I croissant. D'accord ? Imaginez qu'au début, elle est triée par I croissant, par exemple, et il faut la permuter, la trier, de telle manière que en position 0, on a pi de quelque chose, en position 1, on a pi d'autre chose, et ainsi de suite. Et donc, c'est juste un problème de tri par rapport à une permutation pi. Mais maintenant, un tri, ça a besoin de comparer des entrées. Or, les entrées, elles sont chiffrées. Donc forcément, c'est le client qui doit faire les comparaisons. Et quand la RAM... mais il ne faut pas que les actions du client révèlent quelque chose sur les données qui sont en train de se faire trier. Et donc pour ça, on va utiliser ce qui s'appelle un réseau de tri. Donc un réseau de tri, c'est un algorithme de tri où les différents accès qu'on fait aux données et les comparaisons sont les motifs d'accès et de comparaison sont fixés à l'avance une fois pour toutes et ne dépendent pas des données. Et donc, c'est souvent utilisé pour faire du tri en hardware. D'accord, et c'est représenté typiquement comme ça. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que la première étape, on va comparer ces deux valeurs d'entrée en position 1 et 3. Et puis, si elles sont dans le bon ordre, on les laisse, sinon on les permute. Ensuite, on va comparer les données en position 2 et 4, éventuellement les permuter si elles ne sont pas dans le bon ordre. Puis, en parallèle, les positions 1, 2 et 3, 4, puis 2, 3. Et normalement, ça suffit à trier n'importe quel quadruplet de valeurs. D'ailleurs, voilà un exemple ici. Si vous partez des valeurs 3, 2, 4, 1, vous voyez, donc la première comparaison, c'est dans l'ordre, donc on ne bouge pas. La deuxième comparaison, c'est pas dans le bon ordre, donc on échange 1 et 2. Les comparaisons qui sont là, c'est pas dans le bon ordre non plus, donc on permute. Là, on permute une dernière fois, et miracle, on a le tableau trié à la fin. D'accord ? Et donc, comment est-ce qu'on va appliquer cette permutation de manière inconsciente? Comment on va faire ce tri de manière inconsciente? On va exécuter le réseau de tri, donc ça c'est le client qui le fait. Pour chaque paire de points UV, donc je suppose que U est plus petit que V, il va lire et déchiffrer dans la RAM les données qui se trouvent à ses adresses physiques, U et V, d'accord? Ça lui donne I, les adresses logiques. Maintenant, il peut comparer les positions qu'elle devrait avoir, pi de I, pi de J. Si c'est dans le bon ordre, moralement, il n'y a rien à faire, mais il faut quand même tromper l'attaquant, donc il va falloir réécrire exactement les mêmes données, mais chiffrées à nouveau. On suppose un chiffrement randomisé, un de CPA. Comme ça, l'attaquant, il ne voit pas que c'est la même chose qu'on est en train de réécrire. En revanche, si pi de i est strictement plus grand que pi de j, ça veut dire qu'on a besoin d'échanger. Et à ce moment-là, on va réécrire aussi, mais on va réécrire en permutant. Et puisque c'est à nouveau chiffré avec de l'aléa, l'attaquant ne peut pas voir la différence entre ces deux cas. Et les motifs d'accès à la RAM, les adresses à laquelle on accède à la RAM, ils sont fixés une fois pour toutes par le réseau de tri. Voilà. Donc, ça commence à prendre forme, mais il reste un dernier problème qui est que le client, il n'a pas assez de mémoire pour stocker la permutation pi in extenso. Rappelez-vous, la permutation pi, il y a grand N plus petit n éléments à permuter, on suppose que le client, il n'a que petit n cases de mémoire. Et donc là, l'idée, c'est d'utiliser une fonction pseudo-aléatoire, h, pour engendrer pi. Donc l'idée, moralement, c'est que chaque entrée de la RAM, au lieu d'être, va être taguée ou identifiée par son hash, étiquetée par son hash, h de i. Et du coup, on peut dire que pi de i, en fait, c'est le nombre de j qui se hash plus petit que i. Et une autre manière de dire ça, plus simple, c'est de dire que la RAM, elle va contenir des couples qui sont triés par h de i croissant. D'accord, avant, c'était par pi de i croissant, mais pi était une permutation. Maintenant, h, c'est juste une fonction pseudo-aléatoire, mais on va quand même trier par h de i croissant. Et du coup, quand le client veut accéder à l'adresse logique i, donc, alors, il pourrait calculer pi de i avec cette formule, Simplement, ça se fait un calcul en temps linéaire, en i, ce qui est un peu pénible. Mais il peut aussi faire une recherche dichotomique en s'appuyant sur la RAM elle-même. Donc il commence au milieu de la RAM, l'adresse qui est au milieu de la RAM, et il lit ce qui s'y trouve, il déchiffre. Si c'est le bon indice i, il s'arrête. Si le h désiré, le h de i, est strictement plus petit que le h de ce qu'il a trouvé, ça veut dire qu'il faut aller dans la première moitié de la RAM. Sinon, il faut aller dans la deuxième moitié de la RAM. Et puis, on continue comme ça, et en temps logarithmique, on va bien trouver l'entrée qui va bien dans la RAM. Et le motif des accès à la RAM ne révèle rien d'autre que pi de i. D'accord ? Donc, il ne révèle rien de secret à l'attaquant. Bien, donc là je crois qu'on est arrivé à la construction pour une ROM, donc une mémoire en lecture seule inconsciente. Au début, vous avez des données, V0, VN-1, qui sont stockées dans la RAM, aux adresses 0, N-1, et une première étape de préparation où le client lit ces données et les chiffres en mettant l'indice petit i, en les associant à leur indice petit i. Ensuite, il tire une fonction pseudo-aléatoire H. Alors, typiquement, ça va être un chiffrement par bloc, AES-128, disons, avec une clé tirée au hasard. Ça va faire une fonction pseudo-aléatoire tout à fait raisonnable. Il trie la RAM par H de I croissant, en utilisant un réseau de tri. Maintenant, il peut lire jusqu'à petite n valeur, avec l'algorithme qu'on a vu. Et une fois qu'il a lu petit n valeur, ben il recommence avec une nouvelle fonction pseudo-aléatoire. Et on peut montrer donc, que les paires adresse-valeur qui sont sur les bus, alors soit donc, les paires adresses suivent un motif complètement connu, les paires valeurs sont indistinguables de paires aléatoires, et enfin bref, donc il y a, en gros, on ne peut pas. On peut montrer que l'attaquant n'apprend rien. Et alors, quelles sont les performances de ce schéma? Chaque lecture, vous avez cette recherche dichotomique, donc ça va être en log de grand N, d'accord? Et tous les petits N lectures, vous avez cette étape de tri. Et alors, les tris par réseau, au moins jusqu'à une date récente, c'était en N log carré de N. Mais on a récemment trouvé un réseau qui est en n log n, donc qui est optimal, et qui en fait résout une vieille conjecture sur shell sort. Donc peut-être j'aurais dû mettre juste n log n, mais dans la littérature, qui souvent est plus ancienne que ça, on voit apparaître n log carré de n. Et donc, et si vous voulez minimiser cette quantité, vous pouvez choisir n de l'ordre, petit n de l'ordre de racine carrée de grand n. Donc la taille du cache et le nombre de leurres, c'est racine carrée de grand N. Et vous avez une complexité amortie pour une lecture en racine carrée de log carré de N. Racine carrée de N, log carré de N. Bon. Alors on peut faire mieux. Déjà, on peut faire une mémoire RAM en lecture et écriture. Alors a priori, on n'a pas envie que l'attaquant puisse distinguer une lecture d'une écriture. Et donc il va falloir qu'on fasse passer les mêmes choses sur le bus. Dans les deux cas, c'est facile, on va implémenter en fait des accès de type lecture, modification, écriture. D'accord, on lit X dans la RAM à l'adresse I, on applique une fonction à X et on écrit le résultat Y. Et du coup, une lecture, vous avez ça avec f de x égale x, on réécrit la même chose, mais comme c'est chiffré, ça ne ressemble pas à la même chose. Et pour les écritures, vous écrivez, la fonction f est constante, vous écrivez quelque chose qui est indépendant de la valeur lue. Et puis, si vous voulez faire des incréments ou des choses comme ça, c'est très commode. Du coup, on fait les accès comme pour une lecture, sauf que à chaque fois, on calcule la nouvelle valeur y, et c'est celle-là qu'on met dans notre cache. Et maintenant, quand le temps est venu de repermuter la RAM, il faut quand même vider le cache. Et pour ça, on va faire des écritures dans la RAM. On va écrire aux mêmes adresses que les adresses qu'on a lues pendant la première phase. Mais à chaque fois, on va écrire évidemment la valeur V et non pas l'historique des valeurs qu'on a lues et modifiées. Donc on va écrire la valeur finale. Donc aux mêmes adresses et dans le même ordre que les lectures, ce qui ne va pas redonner d'informations supplémentaires à l'attaquant. Et maintenant, la RAM, elle est cohérente et on peut la permuter à nouveau. Et puis, on peut améliorer considérablement les performances. Donc, dans l'article d'origine de Gollreich et Ostrowski, l'approche racine de N, c'était que la mise en jambe. Le vrai résultat, consiste à utiliser une hiérarchie de cache, donc représentée par des tables de hachage stockées en RAM, de taille exponentiellement croissante, de 4, 8 jusqu'à 2 puissance P, avec une stratégie de cache et de permutation maligne, de telle manière que la permutation se produise avec une fréquence inversement proportionnelle à la taille du cache. Et ça vous donne un accès en temps amorti, log cube de N, qui est joli quand même, et un espace de mémoire totale de N log N, donc qui est aussi amélioré par rapport à ce qu'on avait avant, qui était N plus racine de N. Après, il y a plein d'autres algorithmes qui ont été proposés qui utilisent plutôt des arbres binaires pour organiser la RAM au lieu d'une table de hachage. Et au lieu de faire des recherches dichotomiques, essentiellement, on fait une recherche le long d'une branche. Et puis, il y a des stratégies pour insérer des éléments en tête de l'arbre et puis les faire descendre. Enfin bon, je ne rentre pas dans les détails, mais tout ça finit par être relativement efficace. Donc le meilleur résultat connu que j'ai trouvé dans la littérature, dans cet article de 2012, donc ils ont une implémentation qui est en temps amorti haut de log de N pour chaque accès. Donc vous voyez qu'on a encore un peu amélioré par rapport à Gollreich et Ostrowski, haut de log de N, et les constantes sont assez petites. Si vous avez une RAM de 1 teraoctet, vous avez environ 26 accès dans la RAM par opération sur la RAM. Bon. Voilà. Ah oui, et il y a aussi après des extensions pour exécuter ce type de RAM inconsciente dans un contexte de calcul multipartite, où la RAM elle-même est en fait partagée, divisée entre plusieurs participants. Et ça, c'est bien expliqué dans dans ce livre que j'aime bien citer en référence, Practical Introduction to MPC de Evans et co-auteur. Bien, donc voilà ce que je voulais vous dire pour la ORAM, mais on n'en a pas fini avec la mémoire. Je voulais maintenant vous montrer ce qu'on peut faire si les adresses auxquelles on accède la mémoire sont issues d'un calcul par chiffrement homomorphe. Donc voilà un peu le modèle qu'on voudrait exécuter de manière homomorphe. Donc on a des morceaux de circuit qui, de temps en temps, produisent une adresse mémoire, et la mémoire est censée renvoyer son contenu. Et supposons une mémoire en lecture seule, pour simplifier au début, donc elle est censée renvoyer son contenu. Et maintenant, le deuxième circuit va prendre ce contenu, et puis différentes sorties, un état intermédiaire produit par le premier circuit, et à nouveau faire une requête, produire une adresse. On va recevoir la réponse, et on continue une étape par des circuits, et ainsi de suite. Donc c'est un modèle de calcul qui est intermédiaire entre juste des circuits, et puis un modèle RAM, où on aurait aussi des boucles, d'accord, des branchements conditionnels et des boucles. Et ça se prête assez bien pour, par exemple, calculer des statistiques simples sur un grand volume de données. Oui, vous pouvez quand même imaginer que le circuit ici, il est rebouclé n fois, où n est fixé à l'avance, d'accord, ce qui permet de faire, par exemple, des moyennes, des variances, des écarts-types, des choses comme ça, sur toutes les cases de votre mémoire. La question qu'on se pose maintenant, c'est est-ce qu'on peut effectuer ce calcul, donc évaluation de circuits et accès dans la mémoire, de manière homomorphe, où les adresses en particulier donc sont chiffrées et les données vont être injectées, chiffrées dans les circuits. Alors, là, ça commence à ressembler beaucoup au problème dit PIR, Private Information Retrieval, qui est celui, en fait, j'ai déjà fait allusion à ça, donc cette idée d'exécuter une requête sur une base de données, DB, de taille N, sans que le serveur de base de données n'apprenne rien sur la requête ni sur son résultat. Et donc il y a ce folklore qui est que, qui voudrait que toutes les entrées de la base doivent être consultées d'une manière ou d'une autre. Sinon, le serveur va apprendre que la requête ne dépend pas des entrées non consultées, et donc il a appris quelque chose. Et ça, ça laisse entendre que chaque requête est en temps O de N, où N est le nombre d'entrées dans la base de données, au moins. Et en fait, c'est pas vrai. Il y a plusieurs schémas qui échappent à cette espèce de fatalité ici. Et celui que je vais vous présenter, parce qu'il est bien particulièrement compatible avec le chiffrement homomorphe. Donc c'est une approche de Lin, Mook et Vix, publiée en 2023, donc très récemment. Et ils appellent ça DEPIR, donc Doubly Efficient PIR. Et l'idée, elle est relativement simple, qui est que peut-être que les accès, on ne va pas les faire dans DB, on va les faire dans une base DB', qui résulte d'un pré-processing, d'un pré-calcul sur la vraie base DB. Et du coup, si on fait des accès dans DB' qui n'accèdent pas à toutes les cases, ça ne va pas forcément révéler vraiment révéler des choses. Donc les motifs d'accès dans DB' ne révèlent pas les motifs d'accès dans DB. Et alors, il faut faire un petit peu attention pour avoir la bonne complexité. Bon, clairement, le préprocessing de DB en DB' va prendre du temps et va sans doute augmenter un petit peu la base. Mais il va falloir consulter toutes les entrées de la base, donc on sera au moins en temps O de N. On va essayer d'être en temps superlinéaire en N, donc N et puis un polynôme en logarithme de N. Donc un peu plus, mais pas trop. Et on espère aussi que du coup, on va pouvoir exécuter chaque requête privée sur DB' en temps sous-linéaire en N, et peut-être même en temps polylogarithmique en N, ce qui serait un gros gain si on a un grand nombre de requêtes à exécuter. Alors, voyons voir comment on va pouvoir faire ça, et on va pouvoir faire ça avec des polynômes. Donc il faut encore que je fasse un grand détour par des polynômes. Excusez-moi, ce sera la dernière fois de l'année, mais ça en vaut la peine. Considérons un problème de pré-processing, un petit peu plus simple peut-être. Maintenant, c'est un polynôme dont on veut pré-processer d'une certaine manière l'évaluation. Alors, on a un polynôme à coefficient, donc c'est des entiers modulo Q, de degré D, donc a priori représenté par D plus 1 coefficient. Et on veut calculer P de X pour plusieurs valeurs de X, peut-être même un grand nombre de valeurs de X. Alors, il y a l'algorithme naïf sans précalcul. On évalue directement P pour chaque X. L'évaluation, elle se fait en temps proportionnel au degré D. Bon, pas compliqué. Mais imaginez que il y a relativement peu que Q soit relativement petit et que les valeurs de y, et qu'il y ait beaucoup de valeurs de X, peut-être, on peut aussi penser à tabuler P une fois pour toutes. Donc au début du monde, on tabule les Q valeurs que P peut prendre, pour I variant de 0 et Q moins 1, dans un tableau T. Ça va se faire en temps et en espace proportionnel à Q. Et maintenant, pour chaque x, on peut calculer p de x en temps constant. C'est un accès mémoire dans la table. Bon. Alors, en général, le q est beaucoup trop grand pour qu'on puisse envisager ça. Hein. Pensez, je sais pas, des mots de 64 bits, par exemple. Vous n'avez pas une mémoire de puissance 64 octets ou de puissance 64 mots. Mais il y a une solution intermédiaire que j'appellerais la tabulation chinoise, parce que ça utilise le théorème des restes chinois. Voilà les grandes lignes de la construction. Les grandes lignes, c'est qu'au lieu de tabuler P sur tout l'intervalle 0 Q, on va tabuler P sur des petits intervalles, 0 P-1, ou P1, P2, Pn, c'est les nombres premiers. Et puis, on va essayer de recombiner tout ça avec le théorème des restes chinois. Plus en détail. Donc notre polynôme P, on va le voir comme un polynôme P tilde à coefficient dans Z, donc entre 0 et Q-1, mais on va pouvoir aussi l'évaluer dans Z et avoir des valeurs qui ne sont pas modulo Q. Et du coup, notre polynôme P qu'on veut, c'est P tilde modulo Q. Bien. Maintenant, on va majorer P tilde. Alors, P tilde, il prend des valeurs entre 0 et grand M, où grand M, c'est ce nombre un petit peu élevé qu'on obtient en mettant tous les coefficients et puis l'inconnu grand X au maximum, Q-1. Mais ça nous donne quand même un encadrement. Et maintenant, on va majorer cette bande supérieure par un produit de petits nombres premiers. Donc 2 fois 3 fois 5 fois 7 fois 11 fois 13. Voilà. Donc il vous faut petit n nombre premier de l'ordre de log de grand M. Et on va tabuler donc le polynôme P' modulo chaque premier. Donc on va avoir n tables, et dans la table TI à l'index J, vous avez la valeur de PJ modulo PI pour J qui varie entre 0 et PI moins 1. Donc voilà. Et donc c'est ça la préparation. Et maintenant, c'est quoi l'évaluation? Donc vous avez besoin d'évaluer P de X, c'est-à-dire P tilde de X modulo Q. On consulte les N tables aux adresses X modulo PI. Ça vous donne en fait la valeur de P tilde de X modulo PI. D'accord? Vous utilisez le théorème des restes chinois, qui vous dit que si vous connaissez un nombre modulo des nombres premiers, alors vous le connaissez modulo le produit de ces nombres premiers. C'est sympa parce que le produit de ces nombres premiers, donc c'est P1, Pn, c'est plus grand que la plus grande valeur de P tilde de X. Donc P tilde de X modulo ce produit, c'est P tilde de X. D'accord? Et à partir de ça, vous prenez modulo Q, et où vous faites plutôt, vous faites ce calcul des restes chinois modulo Q, et vous avez trouvé votre valeur de P. Et alors, il y a une petite amélioration qu'on peut faire. Si vous avez des tables TI qui sont trop grandes, vous pouvez récurser, d'accord? P modulo TI, vous pouvez à nouveau faire cette analyse et le tabuler de manière chinoise. Et c'est sympathique parce que vous allez même pouvoir réutiliser des tables que... Enfin, il y a certaines tables que vous allez pouvoir utiliser plusieurs fois. Partager, disons, entre plusieurs sous-calculs. Alors, une petite application numérique, parce que je n'ai pas résisté à coder ça en camel, pour voir ce que ça donne. Donc, le bottom line, c'est qu'en dimension 1, avec des polynômes à une inconnue, ça ne donne rien de très intéressant, mais avec plusieurs inconnues, ça donne des résultats incroyables. Donc, déjà un exemple simple avec un polynôme à une seule indéterminée, degré 20, modulo 2 puissance 64, j'ai fait une évaluation en deux niveaux, donc j'ai 37 tables qui donnent les valeurs de P modulo 2, 3, 5, etc. jusqu'à 157. Et en utilisant le théorème des restes chinois, avec ces 37 tables, j'obtiens les valeurs exactes de P pour I jusqu'à un peu plus de 1000. D'accord? Et donc ça me permet de calculer grand P modulo petit p pour les autres nombres premiers dont j'ai besoin, qui vont jusqu'à 937, excusez-moi. Donc ça, tout ça, je n'ai pas eu besoin de tabuler. Et en utilisant à nouveau le théorème des restes chinois, je connais P modulo 2 puissance 64. Alors, en fait, on n'a rien gagné ici parce que le calcul reste plus coûteux que l'évaluation directe de P. D'accord ? 37 tables, ça veut dire 37 lectures mémoire. Même si les calculs du théorème des restes chinois sont gratuits, ça fait quand même plus que les 21 accès mémoire qu'on aurait besoin pour lire les 21 coefficients du polynôme. Mais, et c'est là que c'est assez incroyable, c'est plus vrai du tout pour un polynôme multivarié. Quand vous avez plusieurs variables, plusieurs indéterminés, le nombre de coefficients explose, d'accord, ça devient d puissance m, où m est le nombre d'indéterminés, alors que la valeur maximale, elle n'explose pas tant que ça, et donc le nombre de tables nécessaires explose beaucoup moins. Et si maintenant j'ai un polynôme à 4 variables, de degré 20 modulo 2 puissance 64, avec cette stratégie, il me faut 126 tables au lieu de 37, mais il me faudrait près de 200 000 coefficients pour représenter par coefficient. Et donc, l'évaluation naïve, ce serait 200 000 lectures, alors que là, je ne fais que 126 lectures. D'accord ? Voilà. Et donc ça, c'est un résultat, ce résultat étonnant et assez récent, dans le Kedlaya et Humans en 2011. Donc, ils montrent, eux, ils le font pour des polynômes à m variables de degré d. Ils savent aussi traiter d'autres anneaux R que les entiers modulo Q. Alors, pas des anneaux arbitraires, mais bon, des ZQ crochet de X divisé par un polynôme, par exemple. Et donc, si on utilise deux niveaux de table, le précalcul se fait en temps et espace, cette horrible formule. Mais ce qu'il faut bien noter dans cette horrible formule, c'est que d puissance m, c'est de l'ordre du grand n, le nombre de coefficients du polynôme p. Donc on est en fait quasi linéaire en grand n. D'accord ? Ça, c'est grand n, et puis ça, c'est polynôme en logarithme, essentiellement. Et l'évaluation, elle, se fait en temps polynomial, en D, en M et en log de R, donc le nombre d'éléments de l'anneau, c'est-à-dire en temps polylogarithmique, en le nombre de coefficients du polynôme. Donc on a vraiment gagné. Et ce qui est aussi très intéressant, c'est que le nombre d'éléments, Q, si c'est l'anneau EZQ ou autre, intervient que de manière logarithmique. Donc ça marche même pour des très grands espaces d'indices. Et donc, ben, Lin, Mook et Vix, en 2023, ils ont proposé de s'appuyer là-dessus pour faire leur fameux DPIR, leur fameux accès privé au tableau. Donc on suppose que la base de données DB, c'est un tableau à M dimensions, de taille D sur chaque dimension, donc il peut contenir jusqu'à des puissances M entrées. On peut former le polynôme d'interpolation, qui correspond à ce tableau, d'accord ? Donc c'est un polynôme à N variables, tel que dans les points I1, I2, IN, il est égal à l'entrée I1, I2, IN de la base. Et puis on pourrait traiter ça avec Kedlai-Hommans, mais ça, c'est pas encore suffisamment sécurisé pour rendre les accès vraiment privés. En fait, Lin, Mooks et Vix, ils disent qu'il faut en fait chiffrer ce polynôme P'. Enfin, il faut appliquer le traitement de Kedlai-Hommans un polynôme P' qui, lui, interpole les entrées chiffrées de la base. C'est-à-dire que au point chiffré de I1, chiffré de IN, vous avez le chiffré de la valeur de la base au point I1, IN. Et en fait, tout ça va fonctionner, tous ces polynômes qui travaillent sur des quantités chiffrées, à condition que le chiffrement soit faiblement homomorphe et algébrique, comme ils disent. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Donc, c'est un chiffrement E, où on peut chiffrer par exemple des entiers dans un anneau R. R, il faut que ce soit traitable par Kedlai-Hommans. Et il faut que l'addition homomorphe, ce soit juste l'addition de cet anneau, et que la multiplication homomorphe, ce soit juste la multiplication. Et ça, en fait, c'était vrai des tout premiers chiffrements homomorphes qu'on a vus au deuxième cours. Et puis on a dit, non, mais ça marche pas, la multiplication, le bruit, il augmente trop vite, il va falloir faire des choses plus rusées, ce qu'on a fait au troisième cours. Après chaque multiplication, on fait un changement de base, un changement de module, un changement de ceci, bref. Donc ça va pas, parce que c'est pas algébrique. En revanche, on peut revenir sur les chiffrements faiblement homomorphes plus naïfs du deuxième cours, parce que on a en fait besoin d'évaluer des multiplications peu profondes. En gros, il suffit de pouvoir évaluer des monomes de degré inférieur ou égal à D, et ça fait pas beaucoup de multiplication. Et donc un exemple, ben, c'est le chiffrement de Van Dijk et co-auteurs qu'on a vu au deuxième cours, où l'espace de destination, c'est des entiers, où donc on rajoute au texte clair B un multiple aléatoire de Q et un grand multiple aléatoire de P, où P est la clé secrète. Alors on peut faire de meilleures constructions avec du learning with errors, en particulier du ring learning with errors, un peu plus efficace, mais qui ont encore cette propriété d'être algébrique. Et voilà, et donc avec ça, on peut combiner donc une évaluation homomorphe du circuit, alors qui elle va sans doute utiliser un chiffrement totalement homomorphe plus intelligent. Et on va passer au chiffrement algébrique faiblement homomorphe uniquement quand on accède à la mémoire, donc au polynôme P', pré-traité par Kedlai-Hommans. Et donc à chaque accès, on a l'adresse chiffrée avec le ASHE. On produit le résultat chiffré avec ASHE aussi, et on reconvertit en FHE. Et donc les conversions... Bon, je ne suis pas allé voir dans les détails, mais ça n'a pas l'air trop méchant. Si vous vous rappelez de l'exposé de Ilaria Cilotti sur TFHE, ils passent leur temps à changer de représentation, d'accord, LVE, RLWE, GLWE, GGW, machin, bidule. Bon, et en gros, bah, c'est des changements de clés. chaque fois, on sait faire. Et puis, alors peut-être aussi que faut gérer un peu subtilement le bruit, donc ce qui veut dire qu'il y a peut-être des étapes de bootstrap à faire aussi au moment de ces conversions. Mais là encore, avec l'approche TFHE, ce n'est pas un problème. On peut souvent intégrer le bootstrap avec un autre calcul. Donc je pense que c'est jouable. Et alors après, on peut aller plus loin. Et ça... c'est bien décrit dans, enfin c'est esquissé plutôt dans l'article de Lynn Mook et Vix. Donc là, on fait une lecture en mémoire, on a une mémoire en lecture seule qui contient initialement des données connues du serveur, celui qui fait l'évaluation homomorphe. On peut aussi y intégrer des données en lecture seule chiffrées, donc pas connues du serveur, et on peut aussi ajouter un mécanisme pour faire des écritures. Bon, mais là j'avoue que je n'ai pas suivi les détails et je vous renvoie à l'article pour aller plus loin. Voilà, donc ça c'est ce que je voulais vous raconter sur la mémoire donc, et les accès directs et qu'est-ce qu'on peut faire pour aller dans cette direction. Et maintenant, dans la deuxième partie du cours, je voudrais vous parler d'une autre direction assez originale. Qui est au calcul sécurisé, qui est l'obfuscation, et plus précisément l'obfuscation indistinguable. Alors c'est quoi l'obfuscation ? L'obfuscation de logiciel, de programme, c'est l'idée assez simple de rendre un code exécutable, voire un code source, un code qu'on distribue aux autres, inintelligible. Il faut que le code résiste au désassemblage, qu'il résiste à la revue de code, à la lecture du code d'origine ou désassemblé, à l'analyse statique. Les gens à qui vous donnez votre code obfusqué, en gros, il faut qu'ils n'en tirent aucune information. Ils sont quand même capables de l'exécuter, mais c'est tout. Alors à quoi ça sert ? Ben, c'est une des approches utilisées pour empêcher la rétro-ingénierie de programme, le reverse engineering. Par exemple, si dans votre programme, il y a un algorithme propriétaire, si votre programme, c'est une version démo d'un programme complet, mais en fait, toutes les fonctionnalités désactivées sont encore dans l'exécutable, et peut-être accessibles par un code secret ou une combinaison de touches, mais vous ne voulez pas l'utilisateur de la version démo puisse trouver, par examen du code, le truc pour débloquer la version complète. Bon. Ça a aussi beaucoup été utilisé, l'obfuscation, pour empêcher le contournement de protection logicielle, par exemple les protections contre la copie. À une époque, les copies du logiciel, mais aussi si c'est des programmes qui manipulent des médias, protéger contre la copie des médias en question. Donc ça, c'est toute la problématique du Digital Rights Management, DRM. Et puis, il y a aussi des gens qui font de l'obfuscation pour s'amuser, par exemple pour mettre des œufs de Pâques dans les programmes, ou il y a même un concours qui est tous les ans, qui s'appelle le IOCCC, International Obfuscated C Code Context, qui consiste à écrire le programme C le plus incompréhensible et qui fait les choses les plus incroyables en 1,5 kilooctets, je crois, ou quelque chose comme ça. Alors voilà un exemple de gagnant de l'IOCC en 2001, l'entrée de Raymond Cheong. Voilà, donc ça c'est un code C correct et qui s'exécute. Et devinez ce qu'il fait. La forme du programme va peut-être vous donner une petite idée. Donc il calcule les racines carrées en précision arbitraire du nombre que vous lui donnez en argument. C'est évident, non ? Là, à droite, c'est un extrait du code de gmail.com. Si vous demandez à voir le code de gmail.com dans votre navigateur, vous avez ça. Donc c'est du JavaScript, ça s'exécute. Mais bon, il a perdu toute structure, et puis les noms de variables et de fonctions ne veulent plus rien dire. Alors c'est une protection faible contre la rétro-ingénierie. C'est aussi une manière de compresser le programme. Il tient un peu moins de place que le programme source d'origine. Bon. Alors, il y a plein de techniques d'obfuscation connues. Il y avait même eu un séminaire de Sandrine Blasi dans ce cours en 2022. Et puis, il y a un livre de Goldberg et Nagra qui est une bonne référence là-dessus, « Repetitious Software ». Et donc, il y a tout un catalogue de techniques. Donc, on a vu dans l'exemple de gmail.com le renommage des fonctions et des variables. On peut penser à insérer des calculs redondants, qui en fait ne vont pas se déclencher, mais qui compliquent en particulier l'analyse statique. Au lieu de calculer simplement x plus 3, vous calculez cette conditionnelle, qui en fait, vu que la condition est toujours fausse, va toujours envoyer n plus 3, mais ça, un analyseur statique ne va pas forcément s'en rendre compte. Vous pouvez coder le flux de contrôle, donc les branchements et les boucles, sous forme de table ou d'automate. Typiquement, vous allez coder un PC virtuel et puis intégrer des switches, des analyses de cas sur la valeur du PC. Donc ça, c'est une construction d'ailleurs qu'on avait vue l'an dernier pour montrer que les programmes structurés peuvent toujours s'implémenter avec une seule boucle while. Vous pouvez changer la représentation des données, avoir des représentations redondantes avec deux parts, par exemple, comme on a vu pour le MPC. Vous pouvez aller jusqu'à chiffrer certaines, brouiller ou chiffrer ou masquer certaines données, des tables constantes, par exemple. Vous pouvez aussi appliquer du masquage ou du chiffrement sur des bouts de code qui va se déchiffrer avant d'être exécuté. Vous pouvez faire du code automodifiant. Enfin bref, il y a tout un catalogue de mesures, de brouillage, d'obfuscation et de contre-mesures. Il y a aussi tout un tas d'outils et pas mal de savoir-faire chez les pirates pour contourner tout ça. Alors pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui ? C'est parce que on peut se demander si on peut faire une obfuscation de qualité cryptographique où là, essentiellement, on ne peut pas hacker, on ne peut pas inverser. Donc on a un code source qui peut contenir des secrets. Ça peut être des clés secrètes, des données personnelles, ça peut être des algorithmes propriétaires. Et on veut le transformer en une vraie boîte noire. Donc c'est un programme qui reste exécutable, mais dont les seules informations qu'on peut extraire de ce programme, c'est en observant des exécutions. D'accord ? On ne peut pas, même si on lit le code, on n'apprend rien de plus. Alors c'est un sacré défi, ceci dit, c'est une vieille idée. C'était une des premières pistes envisagées par Diffie et Hellman dans leur célèbre article de 1976 pour réaliser le chiffrement à clé publique. À l'époque, donc Diffie et Hellman, ils avaient réalisé l'échange de clés, mais ils n'avaient pas encore trouvé le moyen de faire le chiffrement à clé publique, celui où tout le monde peut chiffrer et seule une personne peut déchiffrer. Ça viendra que quelques mois plus tard avec RSA. Et donc, dans cet article, ils se demandent, voyons comment est-ce qu'on pourrait faire le chiffrement à clé publique. Et à un moment, ils disent, ben, peut-être, on pourrait utiliser un one-way compiler, un programme qui prend un compilateur qui prend un programme écrit dans un langage de haut niveau facilement compréhensible et qui produit un programme exécutable incompréhensible et dans lequel on aura caché la clé qui permet de chiffrer. Et donc cette idée, elle est restée lettre morte pendant un certain temps. Jusqu'aux travaux de Barak, donc en 2001, où il s'est demandé justement est-ce qu'on peut formaliser cette intuition d'obfuscation boîte noire en termes cryptographiques, et puis est-ce qu'on pourrait la réaliser aussi. Donc cette notion de boîte noire, alors qu'il appelle virtuelle, bon, on ne va pas rentrer dans les détails, donc l'obfuscation VBB. Alors formellement, c'est quoi ? Donc c'est un compilateur, c'est un transformateur de programme. Il prend un programme, vous rend un programme. Il doit préserver la fonctionnalité, c'est-à-dire que pour toute entrée X, si vous exécutez le programme P sur l'entrée X ou si vous exécutez le programme off de P sur l'entrée X, vous avez le même résultat. Alors j'utilise des crochets dénotationnels. Donc crochet de P, c'est la fonction d'entrée-sortie de P. D'accord ? Et les seules propriétés que l'on peut établir de off de P, ce sont celles que l'on peut inférer de son comportement d'entrée-sortie, c'est-à-dire des notations de off de P, c'est-à-dire la même chose que des notations de P. Et ça, on peut formaliser un petit peu plus. Alors oui, qu'on peut établir en temps polynomial, parce que si on a un temps infini, on peut toujours essayer des choses. Toutes les permutations, etc. Donc, en temps polynomial, si vous avez votre attaquant, qui est un prédicat, il prend un programme, il doit dire envoyer 0 ou 1, il doit décider une propriété sur le programme. En temps polynomial probabiliste. Et en fait, votre obfuscateur et les boîtes noires virtuelles, s'il existe un simulateur S, qui lui aussi est en temps polynomial probabiliste, qui fait aussi bien que l'attaquant, en ayant seulement accès au comportement d'entrée et sortie du programme P. Donc l'attaquant, il reçoit le programme obfusqué, donc il peut l'exécuter, mais il peut aussi aller voir dedans. Le simulateur, lui, il reçoit que le comportement d'entrée et sortie, et pourtant, il va faire aussi bien. L'attaquant n'aura pas d'avantage significatif sur le simulateur. Alors, si on avait ça, on pourrait faire plein de choses. En fait, la plupart des primitives cryptographiques connues, ou même certaines qui, à l'époque, n'existaient que dans l'imagination de quelques cryptographes, se réalisent ou se réaliseraient facilement si on dispose d'un obfuscateur VBB. Par exemple, le chiffrement à clé publique, suivant l'intuition de Diffie et Hellman. Voilà une réalisation. La clé secrète, ça va être un vecteur de bits aléatoire. Et la clé publique, ça va être le hash de cette clé secrète en utilisant donc une fonction pseudo-aléatoire. SHA-256, si vous voulez. Et le chiffrement d'un message, c'est une fonction. Mais c'est une fonction obfusquée. Donc c'est la fonction qui prend la clé secrète. Et si elle se hache en la clé publique, révèle le message, sinon ne révèle rien, d'accord. Mais c'est sûr que si on donne cette fonction, même compilée, à un attaquant, il va désassembler, il va retrouver le message M. Et c'est là que l'obfuscation intervient. Si l'on donne une version obfusquée VBB de cette fonction, a priori, tout ce qu'il va pouvoir faire, c'est l'exécuter sur diverses clés secrètes S. Et vu qu'il ne connaît pas la clé secrète S, avec très très forte probabilité, il va obtenir que des bottoms. Et puis, il ne peut pas aller voir dans le code pour essayer de trouver le message M directement. Ou pour désactiver ce test, par exemple, faire en sorte qu'il renvoie toujours trou. Enfin bon, ce genre d'attaque qu'on peut faire sur un code. Bon, donc ça marche pour le chiffrement à clé publique. Ça marche pour le chiffrement homomorphe. C'est très facile de faire un chiffrement homomorphe. Du coup, il suffit de cacher la clé secrète dans le calcul. Donc vous obfusquez la fonction qui prend un chiffré, le déchiffre, le passe dans grand F, le rechiffre. Et ça, c'est l'équivalent homomorphe de grand F. Facile. Le chiffrement fonctionnel, dont on va parler dans le séminaire, functional encryption, ça marche aussi. Donc chiffrement fonctionnel, c'est l'idée qu'à partir d'une clé privée SK, vous pouvez dériver des clés spécifiques à des fonctions grand F, SK de F, et SK de F qui permet de calculer la fonction F sur une entrée chiffrée, mais qui permet de faire rien d'autre sur cette entrée chiffrée. Et donc, ben c'est facile, il suffit d'obfusquer la fonction qui prend un chiffré X, j'aurais dû mettre C, le déchiffre avec la clé secrète et applique la fonction F. Bon. On peut faire des choses encore plus bizarres, par exemple le chiffrement avec témoin, witness encryption, où maintenant la clé publique, c'est une proposition P, et la clé secrète, c'est une preuve de cette proposition. Donc par exemple, j'ai une pensée très secrète, vraiment très personnelle, que je veux chiffrer pour la postérité, et de telle manière qu'elle ne peut être déchiffrée que si la conjecture de Goldbach est fausse. D'accord. Donc s'il existe un nombre pair qui n'est pas une somme de deux nombres premiers. Et donc, je vais pouvoir chiffrer de la manière suivante. Je vais obfusquer la fonction qui prend une preuve pi, et qui, un terme de preuve en ROC ou en LIN, par exemple, qui vérifie si ce terme de preuve prouve bien que la conjecture de Goldbach est fausse. Et donc, typiquement, ça va juste être évalué, et essayer tous les nombres premiers et puis voir que le nombre que pi qui est donné en argument ne peut pas être obtenu comme une somme de deux nombres premiers. Donc si cette preuve valide la proposition, alors je renvoie mon message ultra secret M, sinon je renvoie rien. Et vu que c'est obfusqué, vous n'allez pas retrouver le message M, et c'est seulement le jour où vous aurez un contre-exemple à la conjecture de Goldbach que vous pourrez obtenir mon message. D'accord ? Bon. Alors, les cryptographes, ils ont de ces idées quand même. Le problème, c'est que l'obfuscation virtuelle black box n'existe pas. Au sens où il existe. Ça, c'est Buzz Barak qui l'a montré dans son article de 2001. Il existe des programmes qu'aucun obfuscateur ne peut rendre boîte noire. Le programme obfusqué va toujours donner plus d'infos que juste le comportement d'entrée-sortie. Alors, dans l'article de Barak, il fait ça avec des machines de Turing et tout. Bon, mais je ne veux pas vous montrer une machine qui s'applique à elle-même, évidemment. Mais je ne veux pas vous montrer ça. Je vais vous montrer une variante que j'ai piquée dans des notes de cours de VIX, qui n'utilise que des circuits et du chiffrement homomorphe. Donc, c'est quand même l'occasion, une fois de plus, de faire travailler notre chiffrement homomorphe. Et donc, l'idée, c'est que vous regardez ce programme, qui est assez bizarre. En zéro, il renvoie une quantité aléatoire, inconnue de l'attaquant, mais chiffrée. En alpha, cette quantité aléatoire, il renvoie bêta, et il peut aussi envoyer gamma si vous lui donnez un chiffré de bêta. C'est un peu bizarre, mais bon. L'idée, c'est que le simulateur, celui qui observe uniquement la fonction, le comportement d'entrée-sortie, bon, il peut facilement appliquer en zéro, donc il peut apprendre le chiffré de alpha, mais a priori, il n'a pas la clé de déchiffrement, bien sûr, donc il ne va pas pouvoir apprendre alpha, et il n'a à peu près aucune chance d'apprendre bêta et gamma, parce qu'il faudrait qu'il trouve une entrée extrêmement particulière, essentiellement aléatoire. Il faudrait qu'il ait vraiment beaucoup de chance. Bon. En revanche, l'attaquant qui a le code obfusqué de P, il peut en faire une évaluation homomorphe. D'accord ? Et ça va lui donner le chiffré de bêta. Et pour ça, il faut appliquer le circuit homomorphe de P à la valeur obtenue en exécutant P en 0, c'est-à-dire le chiffré de alpha. Ça va vous donner le chiffré de P de alpha, c'est-à-dire le chiffré de bêta. À partir du chiffré de bêta, vous pouvez déduire gamma. Et donc, l'attaquant, il peut toujours déduire gamma, alors que le simulateur, il ne peut pas. Bon. Bon, c'est fini, on arrête le cours. On passe aux questions. Non. Parce que, donc, Barak et ses co-auteurs, dans le même article, proposent une version légèrement plus faible de l'obfuscation, qui s'appelle l'obfuscation indistinguable, IO, Indistinguishability Obfuscation. Et pour laquelle ils n'ont pas de contre-exemple, ils n'ont pas de preuve d'impossibilité. Donc c'est quoi un obfuscateur indistinguable ? Donc c'est encore une fois un programme qui prend un compilateur, un programme qui prend un programme et qui, pardon, vous rend un programme. Il préserve la fonctionnalité, comme tout obfuscateur. Et si vous avez deux programmes, P1, P2, de même taille et de même comportement d'entrée-sortie, donc de même dénotation, leurs obfuscations sont impossibles à distinguer en temps polynomial probabiliste. Donc pensez à un de ces petits jeux, un peu dans le genre de CPA. L'attaquant choisit deux programmes, P1, P2, les donne au challenger, le challenger les obfusque et les rend, mais dans un ordre quelconque, à l'attaquant. Et maintenant, l'attaquant doit savoir lequel des deux programmes obfusqués correspond à P1 et lequel correspond à P2. Et l'obfuscateur est indistinguable si l'attaquant n'a essentiellement pas plus de chances de réussir que s'il tirait au hasard. D'accord ? Donc, un demi. Alors, ça a l'air beaucoup plus faible que l'obfuscation VBB ou d'autres formes d'obfuscation auxquelles on pourrait penser. En fait, il y a un argument qui dit qu'on ne peut pas vraiment faire mieux que l'obfuscation indistinguable. Ça, c'est un petit article de Jeffy Goldwasser et Ross Bloom. Donc, supposez que vous avez un obfuscateur IO, indistinguable, et puis vous avez un autre obfuscateur. Bon. Qui vaut ce qui vaut, au moins il préserve la fonctionnalité. Maintenant, si vous avez un programme P qui vous intéresse, vous pouvez l'obfusquer avec l'obfuscateur OPF, ou vous pouvez aussi lui ajouter du padding, pour qu'il ait, donc du code mort, pour qu'il ait la même taille que le programme obfusqué. Et à ce moment-là, les deux programmes ayant la même taille, vous allez pouvoir le passer dans l'obfuscateur indistinguable IO et obtenir donc deux programmes qui IO P1 et IO de P2 qui sont indistinguables. Mais du coup, vous ne savez même plus lequel des deux programmes a utilisé OPF et lequel a simplement mis du padding. D'accord ? Donc quelque part, ça n'a servi à rien de faire une étape de OPF avant IO, puisque même vous n'êtes plus capable de faire les différences. Vous n'êtes même plus capable de savoir dans lequel des programmes obfusqués OPF a été appliqué. Et donc, cette intuition que finalement, ça ne rajoute pas de sécurité, OPF n'a pas rajouté de sécurité par rapport à la sécurité que vous obtenez juste avec IO. Bon. Et par ailleurs, la probabilité propriété d'indistinguabilité suffit à montrer la sécurité d'implémentation de plein de primitives cryptographiques qui utilisent donc l'obfuscation. Pardon. Les exemples qu'on a vus, là, chiffrement à clé publique, chiffrement à témoin, chiffrement homomorphe, chiffrement fonctionnel, mais il y en a plein d'autres, chiffrement déniable, chiffrement basé sur l'identité, basé sur les attributs, signature courte, enfin bref. Il y en a encore une autre colonne, mais avec des noms tellement bizarres que je n'ai pas pu les traduire en français. En fait, la propriété d'indistinguabilité, qui a l'air un peu faible, suffit à montrer la sécurité de ces choses-là. Alors, je vais vous esquisser une preuve pour le chiffrement à clé publique. Donc celui où, rappelez-vous, pour chiffrer le message M avec une clé publique PK, on prend la clé secrète en argument, on vérifie qu'elle se hache en la clé publique, on renvoie M si c'est le cas, le message, et sinon on ne renvoie rien. Et donc on utilise une fonction pseudo-aléatoire H, et il est important que l'image de H soit nettement plus grande que l'argument de H. Vous allez voir pourquoi dans une minute. Typiquement SHA-256 que vous appliquez sur des entrées de 128 bits. D'accord ? Bon. Alors, donc on va montrer que c'est un de CPA, indistinguable ou chosen plain text attacks. Rappelez-vous, un de CPA, on a vu ça rapidement au deuxième cours, c'est un petit jeu. Vous avez un challenger et un attaquant. L'attaquant essaye de casser la sécurité du système. Le challenger essaye de montrer que non, tout va bien. Donc, le challenger tire une clé secrète, prend la clé, tire une paire de clés, donc ici il tire la clé secrète et il prend la clé publique et le hash de la clé secrète, il envoie la clé publique à l'attaquant. L'attaquant choisit deux messages, M0 et M1. Le challenger choisit un des deux messages, donc il choisit B qui vaut soit 0 soit 1, renvoie le chiffré du message d'indice B à l'attaquant, et l'attaquant doit maintenant deviner la valeur de B, avec une probabilité un peu meilleure que 1,5. Donc. Et on va montrer en fait que non, sa probabilité c'est 1,5, et que donc l'attaque échoue. Comment on va faire ? Eh bien, on fait ça en montrant l'équivalence avec deux autres jeux. Donc dans le jeu numéro 2, le challenger, au lieu de prendre une clé publique qui est le hash d'une clé secrète, il tire une clé publique au hasard dans l'espace des hachés. Et il envoie ça à A en disant c'est ça la clé publique. Et c'est d'ailleurs la clé qu'il va utiliser pour faire les chiffrements. D'accord ? Et l'idée, c'est que l'attaquant, il ne peut pas distinguer ce jeu numéro 2 du jeu numéro 1. Dans le jeu numéro 2, il reçoit un R aléatoire. Dans le jeu numéro 1, il reçoit le H d'un nombre aléatoire. Et l'idée, enfin, au moins si vous croyez à. Au random oracle model, donc si vous croyez que votre fonction pseudo-aléatoire est vraiment aléatoire, c'est que vous ne pouvez pas distinguer ça. On ne peut pas distinguer un nombre quelconque d'un nombre tiré au hasard, d'un nombre produit par la fonction pseudo-aléatoire. Et donc, puisqu'il ne peut pas distinguer entre le jeu numéro 1 et le jeu numéro 2, son attaquant est le même dans les jeux 1 et 2. Son avantage, pardon, est le même dans les jeux 1 et 2. S'il avait un avantage dans un des deux jeux, en fait, il pourrait monter une espèce d'attaque sur la fonction pseudo-aléatoire. Un distingueur qui va dire non, ce nombre-là, il est vraiment aléatoire, et ce nombre-là, il est sans doute dans l'image de H. Bon. Donc, l'avantage de l'attaquant est le même dans les jeux numéro 1 et numéro 2. Et maintenant, il y a le jeu numéro 3. Où maintenant le challenger, au lieu de renvoyer un chiffrement bien formé, il renvoie l'obfuscation de la fonction qui dit toujours non, qui révèle rien. Et l'idée, c'est que l'attaquant, il ne va pas être capable de distinguer cette obfuscation de cette obfuscation, parce que, avec une très grande probabilité, le R que vous avez tiré au hasard n'est pas dans l'image de grand H. D'accord, l'image de grand H, elle est de taille 2 puissance lambda, et R, il est tiré dans un espace beaucoup plus grand, 2 puissance 2 lambda, et donc avec une très forte probabilité, R n'est pas dans l'image de H, et donc ce test H de S égale R va échouer tout le temps. Et donc s'il échoue tout le temps, on a une fonction ici qui est observationnellement équivalente à la fonction qui est là, et donc leurs obfuscations vont être indistinguables par l'attaquant. Et donc pour l'attaquant, ce jeu numéro 3, c'est le même jeu que le jeu numéro 2. Mais évidemment, il n'y a aucune possibilité de gagner le jeu numéro 3, puisque l'attaquant ne reçoit rien qui dépende de B. D'accord ? Bon. Donc voilà. Donc l'attaquant n'a pas d'avantage dans le jeu numéro 3, ni dans le jeu numéro 2, ni dans le jeu numéro 1. Donc le chiffrement est CPA. Voilà. Alors, maintenant, il reste une petite question ouverte, c'est comment est-ce qu'on va réaliser IO, l'obfuscation indistinguable. Alors, comme d'habitude, on va se restreindre au circuit. Mais déjà, rien que ça, c'est toute une aventure. Alors, bien sûr, si on n'avait pas de contraintes de taille et de temps sur l'obfuscateur, il suffirait de représenter le circuit par sa table de vérité. D'accord ? La table de vérité, c'est une représentation canonique du comportement d'entrée-sortie du circuit. Donc deux circuits qui ont le même comportement d'entrée-sortie ont la même table de vérité. Et puis, ben, ça permet d'exécuter le circuit. Hein. Voilà. Donc, problème résolu ? Ben non, parce que la table de vérité, elle est de taille exponentielle, le nombre d'entrées. Donc ça ne va pas. Ce n'est pas une obfuscation utilisable. Alors, si maintenant on a des contraintes en espace, et vous pouvez remplacer table de vérité par d'autres choses, par exemple des BDD, là aussi vous aurez une représentation canonique, mais pas de taille polynomiale, a priori, donc ça ne va pas. Maintenant, si vous n'avez pas de contraintes de temps, l'obfuscateur a tout le temps du monde, mais il doit produire un circuit obfusqué de taille polynomiale, il y a une solution qui consiste à énumérer tous les circuits par taille croissante, dans un ordre fixé à l'avance, et de s'arrêter au premier circuit qui est équivalent au circuit C donné. Donc ça vous donne une forme canonique pour chaque circuit. Simplement, ça va prendre longtemps. D'accord, ce type d'énumération, c'est clairement en temps exponentiel. Donc ça ne va toujours pas. Si on veut que l'obfuscation se fasse en temps polynomial probabiliste, on ne peut pas travailler par canonicalisation possible. Du moins si P est différent de NP, parce que si vous pouvez calculer des formes canoniques en temps polynomial, ben vous avez résolu le problème SAT. D'accord, vous avez votre formule logique, vous la canonicalisez, ça vous donne un circuit. Si c'est le même circuit que le circuit qui renvoie toujours 0, alors vous avez prouvé que la formule est unsat en temps polynomial. Bon, donc ça ne va pas, ou alors c'est peut-être si P égale NP, et donc il va falloir faire de la cryptographie. Voilà. Et alors la première idée, donc la première construction qui a été proposée, plausible qui a été proposée, c'était en 2013, et elle s'appuie sur le chiffrement homomorphe. Donc, on va voir, le chiffrement homomorphe fait la moitié du boulot. L'idée, c'est que vous pouvez représenter votre circuit C de taille n par un vecteur de bits et qu'il existe un circuit universel, U de n, qui peut exécuter donc cette description de circuit sur une entrée X fixée, quelconque, et vous donner le même résultat que C de X. Pensez à un, ça existe même dans le monde réel, pensez au FPGA, les circuits programmables. C'est une espèce de circuit universel avec tout un tas de portes et d'interconnexions. Vous lui envoyez un code de circuit, C, il se connecte, il se recombine ses portes, il combine ses portes pour implémenter exactement le circuit C que vous voulez, et après vous pouvez l'exécuter sur des entrées quelconques. Donc voilà. Donc ça, c'est a priori, c'est faisable. Et du coup, on peut se dire, ben voilà, l'obfuscation de C, ça va être un chiffrement homomorphe de ce vecteur de bits petit c, de cette description du circuit. Et maintenant, on va évaluer homomorphiquement le circuit universel U de n. D'accord ? Donc on va lui donner le chiffré de la description du circuit. On va lui donner un chiffré de l'entrée, qui peut même être un chiffré trivial, si l'entrée n'est pas, a priori, pas secrète. Et on va obtenir en sortie, malheureusement, on ne va pas obtenir C de X, le résultat du circuit appliqué à X, on va obtenir un chiffré de C de X. D'accord ? Donc on y est presque, il n'y a plus qu'à déchiffrer cette sortie. Mais problème, on n'a pas la clé secrète du chiffrement homomorphe, parce que sinon, on peut retrouver le circuit d'origine. Donc on n'a pas eu notre obfuscation. Et donc, il va falloir travailler sur un circuit qui réalise le déchiffrement. On a déjà vu ça dans le contexte du bootstrap, si vous vous souvenez. Donc, mais là, il nous faut un circuit un peu différent. Donc, c'est un circuit qui va prendre en entrée donc la sortie chiffrée de l'évaluation universelle, de l'évaluateur universel, donc E de C de X, qui va prendre en entrée la clé secrète chiffrée avec la clé publique, d'accord ? Bonjour la sécurité circulaire, et qui devrait nous déchiffrer le message et donc nous donner C de X en clair. Et du coup, le chiffré de la clé secrète, on peut l'intégrer ça dans l'obfuscation du circuit, d'accord ? Mais donc ce circuit, c'est pas tout à fait le circuit qu'on avait besoin pour le bootstrap, parce que dans le circuit du bootstrap, il avait une sortie qui était encore chiffrée, d'accord ? C'était en fait la même. Conceptuellement, c'était un autre chiffrement de la même entrée, avec moins de bruit. Et donc on n'est pas dans la même situation. Et alors, regardons un petit peu le circuit de déchiffrement. Si vous êtes en LWO, par exemple, le déchiffrement est relativement simple. D'accord ? Il faut réaliser un produit scalaire avec la clé secrète, une soustraction, une extraction de bits, une soustraction, un shift et un arrondi au plus proche. D'accord ? Typiquement, si le résultat final c'est un bit, donc savoir si on est plus près de 0 ou plus près de 1. C'est tout. Et alors, on peut travailler sur ce circuit et finir par le réaliser par un circuit dit NC0. Alors NC0, c'est les circuits de profondeur constante, indépendante de la taille. Et on veut même NC0, donc qu'il soit de faible profondeur multiplicative, petit d. Et du coup, en gros, on peut espérer que les bits du résultat, donc du C de X, qui est le déchiffrement de ce qui sort de l'évaluateur universel, vont s'exprimer comme en fait comme des polynômes multivariés de degré petit d, d'accord, puisque la profondeur multiplicative est assez faible. Donc on a des polynômes qui vont prendre z, qui est ça là, qui vont prendre le chiffré, pardon, oui, qui prennent un chiffré, qui prennent la clé secrète, qui produisent les bits du clair. Et on veut les évaluer de manière mixte, au sens où l'argument SK, qui est la clé secrète, est chiffré, mais le résultat doit être clair. Donc ce n'est pas une évaluation homomorphe, c'est encore autre chose. Je ne sais pas si c'est un nom dans la littérature. Chiffrement fonctionnel, peut-être. Donc on veut faire une espèce de chiffrement fonctionnel, mais sur des polynômes de petit degré. Alors, si seulement le degré était 2, on aurait déjà la solution, on l'a vu au précédent cours, c'est d'utiliser une forme bilinéaire, d'utiliser un couplage. Rappelez-vous, donc un couplage, c'est quelque chose qui prend des paires d'éléments dans un groupe et qui vous envoie ça dans un autre groupe, G', et de manière bilinéaire, donc linéaire en chaque argument, et donc en particulier si vous lui donnez G puissance A et G puissance B, où G est un générateur, A et B sont des secrets, il va vous produire E de G, G, qui est le générateur de l'autre groupe, à la puissance AB. Et ça, vous pouvez facilement tester, est-ce que c'est égal à l'unité, l'élément neutre du groupe ou pas. Et si c'est égal à l'élément neutre du groupe, ça veut dire que le produit AB c'est 0, et sinon ça veut dire que c'est pas 0. Et si vous savez que AB c'est 0 ou 1, ben vous avez déterminé AB. D'accord ? Et donc, on se dit, ben voilà, il suffit de prendre nos différents chiffrés avec le chiffrement complètement homomorphe, les recoder, les injecter dans un de ces groupes multiplicatifs sur lesquels on sait faire des couplages. On peut espérer que c'est encore une espèce de changement de clé. J'agite violemment les mains ici, mais enfin, c'est pas grave. Et puis, donc ça va être les différents monomes. Oui, j'ai pas été très clair. Donc maintenant, on veut évaluer des monomes de degré 2. Donc c'est constante fois un nombre chiffré fois un deuxième nombre chiffré. Donc constante fois un nombre chiffré, on peut le faire ici. Deuxième nombre chiffré, il est là. Et la multiplication finale, elle va être exécutée par le couplage. Et on va pouvoir tester si le résultat, c'est 1 ou 0. Bon. Donc tout irait bien si les polynômes étaient que de degré 2. Malheureusement, ils sont de degré d strictement plus grand que 2, au moins dans tous les schémas envisagés initialement. Et du coup, Garg et ses co-auteurs, en 2013, ont dit et si on avait des formes multilinéaires ? La même chose, mais avec des arguments. Donc on prend des éléments du groupe d'entrée, et puis on obtient en sortie quelque chose qui nous donne des infos sur le produit A1 fois AD. Et là, ça y est, on est tiré d'affaire. Donc ça, c'est ce qu'avaient proposé donc Garg, Gentry, Alevi, Rajkovac, Sahai et Waters en 2013. Et tout en disant bien que c'était un candidat, leur proposition, donc tout en disant bien que, ils ont besoin de formes multilinéaires et ils ne savent pas du tout si ça peut être fait de manière sécurisée ou pas. Mais sinon, l'article est un feu d'artifice d'idées intelligentes, comme d'habitude, avec ces auteurs-là. Et donc, entre 2014 et 2019, toute la cryptographie, le banc et l'arrière-banc de la cryptographie mondiale s'est jeté sur la question des formes multilinéaires pour en faire une cryptanalyse. Et en gros, la conclusion, c'est que c'est sans espoir. Il n'y a pas de forme multilinéaire qui présente des caractéristiques de sécurité acceptables. Bon, dommage. Et puis, en 2021, il y a Jain, Lin et Sahai qui ont proposé une nouvelle construction pour l'indistinguabilité, l'obfuscation indistinguable, qui, elle, donc, n'utilise pas de forme multilinéaire et qui n'utilise, comme ils disent, que des hypothèses bien fondées. C'est eux qui le disent, mais enfin, disons des hypothèses moins délirantes que l'existence de formes multilinéaires. Donc, ils s'appuient sur la difficulté du problème learning parity with noise, donc une variante de LWO. Ils s'appuient sur le problème d'Elin. Donc, d'Elin, c'est la sécurité des formes bilinéaires, enfin, l'existence de groupes et de formes bilinéaires qui ne trivialisent pas le logarithme discret, notamment. Et puis, il y a une troisième hypothèse que je trouve tout à fait intéressante, même si je ne comprends pas comment ils s'en servent, qui est qu'il existe des générateurs pseudo-aléatoires réalisables par des circuits de profondeur constante, NC0. Et ça, c'est une des caractéristiques de leur construction, qui est qu'ils utilisent de l'aléa et des algorithmes randomisés, pas juste pour faire le chiffrement homomorphe, mais aussi à l'intérieur du circuit qui va réaliser le déchiffrement à la fin. Et ça, je veux dire, je n'ai pas bien compris, mais je vous renvoie à l'article si vous voulez essayer de comprendre. Bien, écoutez, donc ça nous amène à la fin de ce cours. Donc un petit point sur l'obfuscation indistinguable d'abord. Donc je pense que c'est une notion qui est toujours aussi intéressante comme primitive cryptographique ultime. Certains disent qu'elle est crypto-complete, d'autres qu'elle ouvre la voie à Obfustopia, une espèce de monde idyllique dans lequel plein de cryptographies intéressantes existent. Donc, il y a une construction qui, à ma connaissance, résiste encore, qui est celle de Jain, Lin et Sahai. Plusieurs autres, on a vu qu'elle s'appuyait sur des hypothèses fausses ou vraiment douteuses. On est encore très loin d'une implémentation utilisable. Et il y a des liens étroits, donc avec un problème qui, lui, est beaucoup plus proche d'implémentation utilisable et d'application, qui est le chiffrement fonctionnel, dont David Poincheval va nous parler dans le séminaire juste après le cours. Voilà. Pour conclure, donc d'abord quelques éléments de bibliographie, donc sur la RAM inconsciente, sur l'approche d'EPIR et la combinaison entre RAM et chiffrement homomorphe, et donc deux articles de synthèse dans Communications of the ACM sur l'obfuscation indistinguable. Et puis, il est temps de conclure, ou moins de dire quelques mots en guise de conclusion pour ce cours. Donc ça, c'est mon point de vue de non-cryptographe sur la cryptographie, qui est un sujet qui me fascine peut-être encore plus qu'avant de commencer ce cours. Alors évidemment, la cryptographie, c'est infiniment utile pour sécuriser les données, mais ça va au-delà de ça. Donc, mon idée, dans mon impression, c'est que ça donne aussi des points de vue nouveaux, des regards nouveaux et féconds sur d'autres choses À commencer par la théorie de l'information, bien sûr, donc à l'époque où Shannon a jeté les bases de la théorie de l'information moderne. Je crois que c'est à peu près en même temps qu'il a démontré que le masque jetable, le chiffre de Vernam, était inconditionnellement sûr, au sens où si vous avez un gigaoctet de bruit, en le combinant avec le bon masque, vous allez retrouver le début de Wikipédia, mais avec un autre masque, vous allez retrouver les œuvres complètes de Shakespeare, et puis et ainsi de suite. Donc quelque part, on ne peut pas casser ce chiffrement, et ça donne franchement à réfléchir sur ce que c'est que l'information. L'information de Wikipédia, elle est où ? Est-ce qu'elle est dans le 1 giga de bruit initial ? Est-ce qu'elle est dans le 1 giga de bruit du masque ? Non, elle est dans les deux, et elle est nulle part. Donc l'information apparaît, disparaît, par chiffrement, par déchiffrement. C'est assez troublant. Et alors c'est encore plus troublant quand on va ensuite vers la sécurité calculatoire, celle où... c'est conceptuellement possible de casser un chiffrement, c'est juste, ça demande juste trop de calculs. Et là, votre gigaoctet de bruit, il suffit de 128 bits bien choisis pour retrouver Wikipédia, et a priori, vous n'allez rien pouvoir retrouver d'autre. Et ça aussi, ça pose des questions. Où est l'information de Wikipédia ? D'accord. Bon. Voilà, donc ça donne à penser sur ce que c'est que l'information. Mais ça donne aussi à penser sur ce que c'est que la complexité. Comme on l'a dit, il y a derrière pas mal de chiffrements avec les publics, il y a cette idée qu'on s'appuie sur des problèmes qui sont complexes dans le cas moyen. Donc c'est pas les mêmes problèmes que les mêmes notions que la complexité classique, qui est plutôt une complexité dans les cas le pire, mais c'est une complexité qui est aussi tout à fait intéressante. Et alors de même qu'il y a des problèmes importants en complexité classique, si P égale NP, le monde calculatoire serait complètement informatique, serait complètement différent de si P est différent de NP. Il y a aussi des questions un peu similaires autour de la cryptographie, peut-être moins spectaculaires, mais est-ce qu'il existe des fonctions à sens unique, one-way functions ? Est-ce qu'il existe des fonctions pseudo-aléatoires, PRF ? Est-ce qu'il existe des générateurs pseudo-aléatoires, PRG, etc. ? Et suivant les réponses que vous prenez, vous n'êtes pas tout à fait dans les mêmes mondes calculatoires. Et puis, il y a le regard sur le logiciel et sur la programmation. Donc c'est ça le regard que j'ai voulu porter ou développer dans ce cours, puisque mon domaine c'est ça, c'est le logiciel, la programmation, les langages, les outils de programmation. Et bon, je pense qu'il y a eu un certain nombre d'éléments qu'on a vus ensemble. Alors, certains ont trouvé qu'il y avait trop de circuits et pas assez de langages de programmation. Ça manquait de lambda terme. Bon, c'est vrai qu'on ne sait pas encore évaluer de manière homomorphe le lambda calcul, peut-être un jour. Mais malgré tout, je pense que ça donne à réfléchir aussi sur différentes modalités d'exécution, de représentation et d'exécution des programmes. Et puis, bien sûr, ça donne une approche de la sécurité du logiciel que je qualifierais volontiers de maximaliste. C'est là où on veut des garanties extrêmement fortes, prouvables par rapport à des hypothèses mathématiquement claires et qui s'opposent à l'approche assez empirique d'autres techniques de sécurité du logiciel et que je trouve nettement moins convaincante. Et puis, j'admire aussi l'ambition théorique, mathématique des travaux en cryptographie. Voilà, et donc, je pense que... Enfin, s'il faut retenir quelque chose de ce cours, c'est que calculer sur des données chiffrées ou privées, c'est une approche féconde et qui a un potentiel réel pour renouveler la sécurité informatique. Et donc, pour finir, je voudrais remercier plein de gens. Alice la bijoutière, Bob l'ouvrier, Pierre le prouveur, Véronique la vérificatrice, pour plein de discussions intéressantes à base de polynômes, de circuits, de protocoles et de bruits qu'on ajoute et qu'on enlève. Et puis les orateurs du séminaire pour les éclairages qu'ils nous ont apportés et qui m'ont apporté aussi. Il y a des choses que j'ai beaucoup mieux comprises grâce à eux. Et puis vous tous pour avoir suivi ce cours jusqu'au bout. Merci.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.